grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Dans leur infinie sagesse, les Français ont massivement accepté l'obligation de vacciner leurs enfants contre 11 maladies. Premier bilan positif selon Santé publique France, avec 99% des nourrissons qui ont reçu un vaccin hexavalent contre le tétanos, la diphtérie, la poliomyélite, la coqueluche, la rougeole, les oreillons ou encore la rubéole. 1% des nourrissons y ont toutefois échappé, sans compter les faux certificats de médecins délivrés à des parents anti-vaccins, un nombre difficile à mesurer pour l'instant. A contrario, la couverture vaccinale de la rougeole chute. Selon Santé publique France, le virus de la rougeole a provoqué 53 pneumopathies, 2 encéphalites et 1 décès depuis le début de l'année. Dans la ligne de mire des autorités de santé, les anti-vaccins notamment. Pourquoi refuser la vaccination? Comment devient-on anti-vaccin? S'agit-il d'un groupe homogène? Pourquoi remettre en question les bénéfices des vaccins, mais également leur caractère obligatoire? Dans certains cas, peut-on considérer les anti-vaccins comme des lanceurs d'alerte? Et puis vous verrez ce matin que la résistance au vaccin n'est pas neuve. Avec nous, Françoise Salvadori et Laurent-Henri Vignaud qui publient Antivax, Daniel Lévy-Brulle de Santé publique France et le professeur Alain Fischer. Sans oublier la directrice de Santé Magazine, Aline Perraudin. Question-réaction au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Bonjour Baptiste Beaulieu.
Bonjour Ali.
Écrivain et médecin, dans votre chronique, alors voilà, vous nous racontez une médecine à visage humain chaque lundi.
Oui, aujourd'hui on va parler de la grève. Des urgences qui s'étend.
Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rébéi.
Bonjour à nos invités. Bonjour François Salvadori.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'Université de Bourgogne en virologie immunologie. Bonjour Laurent-Henri Vignaud.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'Université de Bourgogne, historien des sciences, et vous publiez ensemble chez Vendémiaire Antivax, la résistance au vaccin du XVIIIe siècle à nos jours. Bonjour Daniel Lévy-Brulle.
Bonjour.
Vous êtes responsable de la vaccination à Santé publique France. Au téléphone avec nous Alain Fischer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur en immunologie pédiatrique, chercheur en biologie, directeur de l'Institut Imagine à l'hôpital Necker, enfants malades. Daniel Lévy-Brulle, qu'est-ce qu'un vaccin?
Un vaccin, c'est un produit qui a comme objectif de préparer le corps à rencontrer plus tard un agent, qu'il s'agisse d'un virus ou d'une bactérie, qui est susceptible d'entraîner des maladies graves. Et le fait de stimuler à travers ce même agent, mais qui a été bien sûr rendu inoffensif, l'organisme, fait que lorsque ce même enfant, s'il s'agit d'un enfant, rencontrera le microbe, eh bien, il aura déjà des défenses immunitaires prêtes qui empêcheront l'agent pathogène, virus ou bactérie, de le rendre malade.
François Salvadori, comment le corps se défend-il face à une maladie infectieuse?
Alors le corps se défend avec des cellules et des cellules qui vont justement, certaines d'entre elles, sécréter des petites molécules qui s'appellent les anticorps. Et ces anticorps, on les garde très longtemps, ou alors si on n'a plus les anticorps, on a les cellules en réserve qui vont pouvoir se réveiller.
Pour simplifier à l'extrême, vacciner, c'est administrer le mal pour s'en prémunir?
Exactement, c'est vrai que c'est une très très vieille théorie, même pas théorie, une vieille idée que soigner le mal par le mal, on sait très bien que depuis des siècles, c'est une idée, c'est aussi un peu l'idée de l'homéopathie finalement, depuis on s'est rendu compte que le vaccin n'est pas le mal, justement. Et l'idée c'était qu'à l'origine c'était la même chose, mais on sait très bien scientifiquement que le vaccin n'est pas le mal, la maladie l'est, au contraire l'est.
Daniel Lévy-Brulle, sur l'idée qu'on soigne le mal par le mal?
Non, j'aime pas trop cette expression parce que, effectivement, comme ça vient d'être dit, le vaccin n'est pas le mal. Le vaccin, c'est le mal devenu bien pour éviter le mal. Puisqu'en fait, comme je l'ai mentionné, le vaccin est rendu inactif et n'est pas susceptible de provoquer la maladie.
Laurent-Henri Vignaud, quand la vaccination fonctionne, elle rend la maladie hypothétique, ce qui entraîne mécaniquement une baisse de la confiance dans le vaccin, puisque la menace du mal n'est plus aussi présente.
C'est un des paradoxes de ce rapport un peu distant que les citoyens aujourd'hui peuvent avoir avec peut-être justement le regard de l'historien de ce point de vue-là est intéressant parce que il y a sans doute eu des époques où la confiance dans les vaccins était plus grande et c'était des époques où la mortalité par les maladies aussi était plus grande. Donc c'est ce que l'on a résumé dans le livre par la formule qui consiste à dire que les vaccins sont victimes d'une certaine manière de leur succès.
Et, c'est-à-dire
alors, ben, c'est à la fois rationnel et irrationnel, c'est-à-dire victime de leur succès, ça veut dire que, de fait, quand la maladie disparaît, les gens n'appréhendent plus non plus le risque ou le danger que représente la maladie en question. Et en même temps, la part de rationalité, ce serait que à mesure que des maladies reculent, eh bien, les dangers potentiels ou les risques potentiels de malfaçon, d'un vaccin qui n'est pas bien fabriqué, on a eu un scandale récent, je crois, aux Philippines à propos du vaccin contre la dengue, sont beaucoup plus visibles, hein, puisqu'on ne peut plus faire la balance entre la mortalité par la maladie qui a quasiment disparu, en tout cas dans certains pays, et le risque infime, mais qui peut exister de malfaçon, de problèmes, comme avec n'importe quel médicament.
Professeur Alain Fischer, comme tout médicament, le vaccin a des effets secondaires.
Il peut avoir des effets secondaires bénins, immédiats, dans les heures qui suivent, sous forme de fièvre ou d'une petite douleur au niveau du point de piqûre, sont relativement communs. Mais le point important, c'est que les effets secondaires sérieux sont extrêmement rares. Quand je dis extrêmement, c'est extrêmement rare, essentiellement dans des cas, mais moins d'une fois sur 500 000, par exemple, une réaction allergique grave, ce qui permet de dire, et fondé sur des années et des années d'analyse dans un grand nombre de pays, que la balance, comme on a l'habitude de dire, entre les avantages, les bénéfices et les risques de la vaccination sont extrêmement favorables à la vaccination.
Alors, un premier message de Luc Depeau qui nous dit faire une émission sur les vaccins en invitant que des immunologistes, c'est comme diriger un débat sur la guerre avec pour seul invité des marchands d'armes. Qu'en est-il de votre déontologie journalistique? Je vous en laisse juge, cher Luc. Qui veut répondre à ceci? Tiens, Daniel Lévy-Brulle.
D'abord, nous ne sommes pas des marchands de vaccins. Nous sommes ici pour défendre la santé publique, c'est-à-dire la santé des enfants, et puis pas que des enfants, puisque la vaccination s'intéresse à l'ensemble de la population. Donc nous sommes animés uniquement par le bien public et pas du tout par des intérêts que certains pourraient nous prêter.
Alors, oui, allez-y, Alain Fischer.
Si je peux me permettre d'ajouter un mot, je crois que des intervenants sont aussi historiens, par ailleurs, et donc pas forcément médecins, et que la vaccination est un domaine de la médecine et de la science, et que pour parler de science et de médecine, il vaut mieux donner la parole à des personnes qui connaissent, ont étudié ce sujet, ont travaillé sur ce sujet pendant des années, voire des dizaines d'années, et ceci en toute indépendance à l'égard des personnes qui commercialisent ces vaccins.
François Salvadori.
Écoutez, oui, on a abordé ce sujet, en tout cas dans notre livre, comme scientifique. Moi, je n'ai absolument rien, jamais touché un seul centime de l'industrie pharmaceutique. Je fais de la recherche en immunologie fondamentale, même si c'est difficile de faire une différence entre les deux. J'ai travaillé sur les tumeurs chez la souris, j'ai travaillé sur l'immunité d'un amphibien. Enfin, ça n'a strictement rien à voir avec l'industrie pharmaceutique. C'est un faux procès.
Daniel Lévy-Brulle, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la couverture vaccinale? Il faut bien sûr rappeler que la vaccination nous protège individuellement, mais qu'elle protège également la collectivité.
Bien sûr. Alors, il y a deux notions dans ce que vous venez de mentionner. La couverture vaccinale, c'est simplement la proportion des personnes pour qui le vaccin est recommandé ou obligatoire et qui est effectivement vacciné. Et donc, ça mesure sur 800 000 enfants combien ont reçu tel ou tel vaccin. Ça, c'est la première chose. Et puis, ce que vous avez mentionné également, c'est la dimension collective qui fait que y compris les sujets non vaccinés, vont bénéficier s'il y a une proportion suffisante de la population qui est vaccinée, donc si la couverture vaccinale est élevée, vont bénéficier de la vaccination parce que les sujets vaccinés vont faire une sorte de barrière à la circulation du virus ou de la bactérie.
François Salvadori, se faire vacciner bloque la propagation exponentielle d'un virus ou d'une bactérie?
Alors, c'est vrai pour la plupart des virus, c'est pas complètement vrai pour tous. Par exemple, quand on se fait vacciner contre le tétanos, il faut reconnaître qu'on se protège que soi-même. Que soi-même. Mais pour la rougeole, qui est une maladie parmi les plus contagieuses qui existent, c'est justement l'importance d'une couverture vaccinale qui va faire la barrière, l'effet barrière. Et dans le cas de la rougeole, c'est 95% qui doit être couvert pour atteindre cette protection des plus faibles. Parce qu'il faut bien voir, les gens qu'il faut protéger, c'est ceux qui ne peuvent pas s'immuniser eux-mêmes. se vacciner eux-mêmes.
Mode du Danemark nous dit « Notre fils était un bébé immunodéficient sévère. Pendant 4 ans, c'est la vaccination des autres qui l'a protégé, incluant donc les transfusions sanguines de personnes qui avaient développé les anticorps car elles étaient vaccinées. Merci à elles. Aujourd'hui, notre enfant a 7 ans et il est vacciné pour se protéger et pour se protéger les autres. » Alain Fischer.
Oui, c'est un bon témoignage. Il se trouve en plus que je travaille exactement dans ce domaine, donc je peux confirmer l'importance de ce propos. Ça illustre parfaitement bien la notion que la vaccination est une affaire collective. On se protège soi-même, bien sûr, mais pour beaucoup des maladies infectieuses, il a été noté une exception tout à l'heure, on protège les plus faibles, les plus vulnérables, donc des patients immunodéficients, des patients qui sont en traitement pour cancer, mais aussi on peut penser aux personnes très âgées, chez lesquelles l'immunité est moins vaillante et qui ont besoin d'être protégées par la vaccination des personnes qui sont autour d'elles, que ce soit leur famille ou des personnes soignantes, par exemple. Donc cette notion de protection des plus faibles, des vulnérables de notre société est une notion fondamentale de la vaccination et qui explique au moins en partie les décisions récentes qui ont été prises dans le domaine de la vaccination en France.
Par le ministère de la Santé. Daniel Lévy.
Par le ministère de la Santé.
Si je peux me permettre juste d'ajouter à cette dimension individuelle que nous a rappelé l'auditrice, la dimension un peu collective. Dans le cadre de l'épidémie de rougeole qui sévit en France depuis maintenant 10 ans et qui est due au fait que nous ne parvenons pas à atteindre ce fameux niveau de couverture vaccinale de 95% de la population, nous avons identifié 24 décès et tous ces décès auraient pu être évités, y compris la moitié des décès qui sont survenus chez des sujets qui avaient un défaut dans leur système immunitaire qui faisait qu'ils ne pouvaient pas être vaccinés. Et ces 12 personnes sont décédées parce que autour d'eux, il n'y a pas eu cette barrière qui aurait été présente si tout leur environnement avait été vacciné et les aurait protégés.
Quand la couverture vaccinale est très élevée, on peut assister à l'éradication d'une maladie.
Tout à fait. La seule maladie.
Exemple.
La seule maladie qui n'ait jamais été éradiquée de la surface du globe, c'est la variole, et elle a été éradiquée grâce à la vaccination. Nous sommes pratiquement en train de parvenir au même résultat pour la poliomyélite. Et donc, oui, la vaccination peut faire qu'un virus, une bactérie disparaisse à tout jamais.
François Salvadori.
Oui, en fait, les maladies qui sont candidates à l'éradication sont quand même bien particulières. Il faut qu'elles soient purement humaines. La grippe, on ne pourra jamais l'éliminer, puisqu'il y aura toujours des oiseaux. Et puis le tétanos, on ne pourra jamais non plus, parce que la terre entière est pleine de bacilles.
Je rappelle juste que selon l'Organisation mondiale de la santé, la vaccination permet d'éviter 2 à 3 millions de décès par an, des décès dus notamment à la diphtérie, au tétanos, à la coqueluche, à la rougeole, dans toutes les tranches d'âge. Et toujours selon l'OMS, il serait possible d'épargner 1,5 million de vies en améliorant la couverture vaccinale. Baptiste Beaulieu.
Oui, je voudrais revenir sur cette idée que la couverture vaccinale, elle bénéficie aussi aux patients, surtout immunodéficients, parce que parfois les antivax que je reçois au cabinet médical en tant que médecin, me disent « mais je suis encore libre de faire ce que je veux ». Ben non, pas quand on vit en société. Quand on vit en société, on a des obligations, on a des devoirs, parce que il y a des personnes qui vont en pâtir de cette couverture vaccinale qui diminue. Et il faut les regarder en face aussi, ces personnes-là, et leur dire bah, « ma liberté, elle est plus importante que ta vie ».
Qui met au point les vaccins? Pas seulement les chercheurs des laboratoires pharmaceutiques, Daniel Lévy-Brulle.
C'est beaucoup. Alors, il y a beaucoup de recherches fondamentales qui est faite dans le secteur public, mais une fois qu'un produit vaccinal hypothétique est développé, il faut une force de frappe que malheureusement seul le secteur privé aujourd'hui est capable de développer pour ne serait-ce que prendre le risque d'un développement dont on ne sait jamais s'il va aboutir à un produit qui pourrait être commercialisé. Il faut plus de 10 ans pour développer un vaccin.
Alors il faut des liens entre les immunologistes et les vaccinologues, mais finalement il y a une discipline qui est très très en amont et qui est plutôt publique, c'est l'immunologie, et puis une discipline qui est très très appliquée, et finalement peut-être on pourrait penser que si on améliore encore le dialogue entre les immunologistes fondamentaux et les vaccinologues, on va trouver des nouveaux vaccins, et il est tout à fait probable qu'en effet les vaccins contre le paludisme, etc. vont peut-être émerger par cette collaboration.
Autour de la table, quels sont vos liens actuels ou passés avec l'industrie pharmaceutique? Daniel Lévy-Brulle.
À Santé publique France, nous n'avons strictement aucune collaboration, aucun lien avec l'industrie pharmaceutique.
François Salvadori, vous nous l'avez dit.
Je n'ai pas fait de recherche financée par l'industrie pharmaceutique.
Et Alain Fischer?
Je n'ai aucun lien avec l'industrie pharmaceutique qui s'occupe de vaccins.
Allez, nous attendons toutes vos questions et réactions au 01 45 24 7000 ainsi que sur l'appli France Inter. Alexia Rivière et Alexia Lacour m'ont aidé à préparer cette émission avec Nicolas Bauve et c'est réalisé par David Le Prince.
So good to me. Monday morning, it was all I hoped it would be. Oh, Monday morning, Monday morning, couldn't guarantee that Monday evening you would still be here with me. Monday, Monday, can't trust that day. Monday, Monday, sometimes it just turns out that way. Oh, Monday morning, you gave me no warning of what was to be. Oh, Monday, Monday, how could you not take me? Every other day of the week is fine, yeah. But whenever Monday comes, you can find me crying all of the time. Monday, Monday, so good to me.
The Mamas and the Papas, interprété Monday Monday.
Ça y est, les chercheurs groenlandais ont enfin trouvé le vaccin contre la connerie.
Grand bien vous fasse.
Problème, d'après un sondage, 73% des Groenlandais sont contre.
Sur France Inter.
10h24, comment devient-on anti-vaccin? C'est notre thème ce matin. Question-réaction au 01 45 24 7000. Écoutons Victor, infecté par le virus de la rougeole. Il n'était pas vacciné.
Je me suis aperçu que ma vue se troublait petit à petit, en fait. Je m'en suis aperçu, en fait, en lisant un livre. Et du coup, on est allé voir un médecin spécialisé, un ophtalmologue, qui a confirmé que c'était à cause de la rougeole qui commençait, en fait, à obscurcir ou à rendre opaque, en fait, certaines parties de mes yeux.
Cette année, entre le 1er janvier et le 10 mars, 100 patients ont dû être hospitalisés. Pour 27 d'entre eux, la rougeole a provoqué des pneumopathies. Selon Santé publique France, 90% des cas sont survenus chez des personnes non vaccinées ou mal vaccinées.
La France est le pays d'Europe le moins bien vacciné, la moins bien protégée. Et c'est pour ça que nous avons le plus grand nombre de cas de rougeole depuis quelques années parmi les pays européens.
Et l'on vient d'entendre le docteur François Bricaire sur BFM TV en mars dernier. Alors je rappelle que selon l'OMS, la rougeole aurait dû être éliminée, éradiquée en 2020. Docteur Daniel Lévy-Brulle de Santé publique France, comment expliquer la forte augmentation des cas de rougeole? Peut-on incriminer les anti-vaccins?
Non, je ne dirais pas qu'il faille incriminer les anti-vaccins. Les anti-vaccins, rappelons-le, c'est une proportion très minoritaire de la population et les différentes enquêtes qui ont été menées Et d'ailleurs, en Europe, on retrouve à peu près les mêmes résultats, montrent qu'il y a 1 à 2% de la population qui se déclare vraiment opposée aux vaccinations. Après, il y a tout un ensemble de personnes qui sont dans le doute, pas forcément d'ailleurs à l'égard de toutes les vaccinations, mais à l'égard de certaines vaccinations. Alors après, ça devient très compliqué parce qu'il faut aller explorer vaccin par vaccin les raisons qui font que certaines personnes sont réticentes. Pour la rougeole, le problème que nous avons, on le voit dans les données que nous recueillons, c'est surtout un défaut de vacciner à temps. Et donc, nous avons une couverture vaccinale qui est très insuffisante chez le nourrisson. Et puis, quand on fait des enquêtes comme nous le faisons plus tard dans la vie, à l'école, on voit que la couverture vaccinale est très bonne. Donc, on a un problème dans les premiers mois de vie. Et puis, on a un problème de tous ces jeunes adultes qui sont nés à une époque où on vaccinait mal et qui ont grandi sans jamais être vaccinés. Comme le virus de la rougeole ne circulait pratiquement plus puisqu'on vaccinait quand même pas si mal, eh bien, ils n'ont pas non plus fait la maladie. Et donc aujourd'hui, le principal, ce qu'on appelle le réservoir de maladie, ce sont les jeunes adultes. Et les jeunes adultes, on a beaucoup de mal à les mobiliser pour une vaccination.
Alors, selon l'OMS, la mortalité de la rougeole avait fortement baissé depuis 2000. Elle était passée de 500 000 décès en 2000 à près de 90 000 en 2016. François Salvadori, je rappelle que vous publiez avec Laurent Rivignaud Antivax. Quelle est la responsabilité pour vous de cette atmosphère d'hésitation vaccinale?
Alors pour la rougeole, c'est assez particulier. On a beaucoup incriminé l'affaire Wakefield, mais je pense qu'en France, elle a...
Alors, ce qu'est l'affaire Andrew Wakefield.
L'affaire Wakefield, c'est une grosse supercherie scientifique, en fait, on peut appeler ça comme ça. Donc c'est un médecin anglais qui a publié en 1998 dans Lancet, c'est-à-dire un des plus grands journaux mondiaux, enfin un journal anglais en l'occurrence, un papier qui montrait, qui suggérait, parce qu'il était très habile, il avait seulement suggéré, un lien entre le vaccin contre la rougeole, enfin le ROR, donc le triple vaccin.
Rubéole, oreillon, rougeole.
Et l'autisme. En fait, très très rapidement, cette suggestion est devenue dans la bouche de Monsieur Wakefield et puis dans, malheureusement aussi, la presse anglaise, une affirmation de lien de cause à effet.
Alors qu'il a été démontré qu'il a fraudé.
Il a fraudé.
Et qu'il avait des intérêts.
Il avait des intérêts.
Financiers, c'est-à-dire qu'il défendait un autre vaccin.
Il défendait un vaccin unique, pour des raisons qui ne sont pas du tout démontrées. Et il défendait aussi, il voulait déposer un brevet pour détecter l'autisme grâce au virus de la rougeole. Enfin, chose très très étrange. Ce qui est vraiment triste, c'est que la communauté scientifique a mis très très longtemps, en l'occurrence la direction du Lancet, a attendu qu'un journaliste courageux anglais, Brian Deer, démonte l'affaire complètement et montre qu'il y avait en fait 32 fautes déontologiques de ce médecin qui d'ailleurs a été radié de l'ordre anglais des médecins et qui sévit aux États-Unis actuellement, toujours dans une militance
aux États-Unis. Professeur Alain Fischer, pourquoi les démentis scientifiques à propos de l'affaire Wakefield, pourquoi ça n'a aucun effet sur les adeptes, sur les croyants, sur les anti-vaccins?
Alors, je pense qu'il faut reprendre la distinction que faisait tout à l'heure Daniel Lévy-Brulle. Il y a une toute petite minorité d'anti-vaccins radicaux qui, pour des raisons diverses, qui peuvent être commerciales, on vient de l'évoquer, idéologiques, de mauvaise science, etc., sont radicalement opposés. De toute façon, ne pourront jamais être convaincus. Et il y a les personnes hésitantes qui souffrent à la fois d'un défaut d'information et du fait que, malheureusement, elles sont exposées aux fausses nouvelles, comme celles que l'on vient d'évoquer, et d'autres, à travers l'expansion, le développement des réseaux sociaux. Donc, pour cette population-là, je ne crois pas que l'on puisse dire qu'elle soit hermétique à la parole scientifique. Ce qui se passe, à mon avis, en France depuis 2-3 ans montre qu'il n'en est pas ainsi. Il y a d'autres expériences dans d'autres pays qui montrent qu'il est possible d'apporter des informations de qualité et de convaincre les hésitants. Tous les jours, les médecins généralistes, excusez-moi, ou les pédiatres, font cet effort d'explication auprès de familles et souvent avec succès. Donc il ne faut surtout pas considérer que l'information scientifique de qualité ne peut fonctionner. Il y a encore une fois un noyau absolument impénétrable, mais ce qui est important, c'est de convaincre les personnes de bonne foi qui hésitent compte tenu des propos ou des paroles qu'ils ont pu entendre. Et ceux-là, si on leur explique bien les choses, sont convaincus.
Baptiste Beaulieu.
Oui, je confirme, c'est une vraie perte d'énergie, mais bon, on le fait parce que c'est important. Mais je voudrais relever le paradoxe. Souvent, les anti-vaccins les plus radicaux qui pensent que les vaccins sont là pour générer de l'argent auprès des labos sont les mêmes qui vont défendre mordicus, le remboursement de l'homéopathie qui rapporte bien plus aux labos que les vaccins.
Alors, de façon très schématique, peut-on classer les anti-vaccins en trois grands groupes? Par exemple, les membres d'associations de patients dont les adhérents souffrent de maladies bien réelles et qui attribuent leur maladie à la vaccination. Laurent Rivignaud.
Oui, alors les classifications sociologiques, doctrinales de l'antivaccinisme sont assez complexes et sont en train de se faire d'ailleurs, parce qu'il y a des travaux de sociologues, d'historiens, de géographes, sur d'anthropologues, etc., sur ces domaines. Donc les divisions ne sont pas partout les mêmes.
Mais alors j'en ai dégagé trois, c'est très schématique. Dites-moi. D'abord, je vous l'ai dit, les associations de patients dont les adhérents souffrent de maladies bien réelles et qui attribuent leur maladie à la vaccination. Les adeptes de médecine alternative qui prônent l'immunisation naturelle par la maladie et qui remettent en cause le rapport bénéfice-risque des vaccins, avec l'idée quand même que la nature est du côté du bien avec un grand B. Et puis enfin des opposants aux vaccins issus des mouvements politiques radicaux qui combattent les vaccins au nom de la liberté des individus. Et puis on peut ajouter un quatrième groupe, ceux qui refusent la vaccination pour des motifs religieux.
Oui.
Est-ce qu'on peut dégager
quatre... aussi. Alors ce qui est intéressant dans cette classification-là que vous donnez, qui a été proposé sur l'antivaccinisme actuel, sur le mouvement actuel, c'est qu'il recoupe largement ce que l'on a montré dans le livre à partir des sources historiques. C'est-à-dire qu'on a fait un livre qui est consacré à l'histoire de la doctrine, si on peut dire, de l'antivaccinisme, et on retrouve bien ces quatre courants. Ce qu'on appelle un naturalisme, c'est-à-dire une confiance dans la bonté finalement de la nature, et le geste vaccinal est toujours considéré comme un geste artificiel, et à ce titre on peut s'en passer, ou même pour les plus radicaux, il est dangereux, par rapport à cette providence naturelle, si on peut dire. Il y a une dimension politique de contestation, notamment vis-à-vis de l'obligation. Et puis, ce qui a été dit très bien précédemment, le thème général de l'hésitation. Et cette hésitation, elle peut être fondée aussi sur l'observation, enfin sur ces fameuses associations qui regroupent des parents qui sont dans la souffrance, qui ont souvent des maladies dont on ne connaît pas l'origine. Et voilà, donc il faut bien en trouver une.
Et c'est légitime.
Et voilà, c'est cette hésitation. Alors l'hésitation première, c'est-à-dire j'injecte quelque chose à mon enfant qui est en bonne santé. Elle est parfaitement normale pour n'importe quel parent. C'est une question à se poser, parce que voilà. Mais et puis après, encore plus, a fortiori auprès de ceux qui voient après coup une maladie se déclencher. Mais la question, c'est après comment on répond. Comment on répond à ces questions légitimes, c'est-à-dire normalement avec des arguments savants. Quoi.
Bonjour Émilie, bienvenue dans l'émission.
Bonjour.
Alors vous avez 39 ans, je me permets de donner votre âge, vous êtes atteinte de myofasciite à macrophage. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est cette maladie?
Alors c'est une maladie neurologique qui est induite par l'hydroxyde d'aluminium qui est donc inclus dans certains vaccins.
Et ça se traduit comment cette maladie, la myofasciite à macrophage, difficile à dire?
Alors elle se traduit par un épuisement qui est chronique, par des douleurs musculaires et articulaires, par aussi des troubles neurocognitifs, donc des difficultés à se concentrer, à retenir les choses notamment.
Alors vous nous avez dit que... Selon vous, votre maladie est liée à la vaccination contre l'hépatite B entre 1994 et 1997, c'est ça?
C'est bien ça. Alors par contre, il faut que je précise, pour être très clair, que la plupart des malades ont des symptômes dans les 6 mois à 2 ans après les vaccinations. Moi, je suis encore un petit peu un cas atypique parmi les malades.
C'est-à-dire?
Eh bien, c'est-à-dire que moi, la maladie s'est développée vraiment tardivement, plus de 10 ans après les vaccins luminiques. Mais la plupart...
Oui, Émilie, vous êtes avec nous?
Oui, allô?
Oui, allez-y, Émilie, on vous écoute.
Oui, non, moi je disais que j'étais un cas typique parce que ça a pris plus de 10 ans pour que les symptômes surviennent, mais la plupart des malades ont des symptômes qui surviennent de 6 mois à 2 ans après la vaccination.
Alors vous nous avez dit, hors antenne, que vous établissez un lien entre votre maladie et la présence d'adjuvants à base d'aluminium dans les vaccins que vous avez pris.
Oui.
D'accord.
Alors c'est pas moi, c'est les scientifiques, je veux dire, c'est les personnes, les spécialistes de cette question-là qui établissent, c'est pas moi personnellement. D'ailleurs, je voudrais tout à fait être claire, je suis pas anti-vaccinale du tout. Je suis moi en faveur d'une vaccination saine et sécuritaire en retirant l'hydroxyde d'aluminium des vaccins, soyons très clairs.
Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est un adjuvant à base d'aluminium, François Salvadori?
Alors pour beaucoup de vaccins, le le germe, le virus ou la bactérie a été tellement modifiée ou elle est tellement réduite à sa simple expression protéique qu'elle ne peut pas suffire à vacciner, à induire une vraie réponse protectrice. Et donc, depuis plus d'un siècle, les scientifiques, les immunologistes, de façon empirique et puis maintenant de façon beaucoup plus contrôlée et connue et comprise, ajoutent des produits qui s'appellent des adjuvants. C'est le plus souvent l'hydroxyde d'aluminium parce que c'est celui sur lequel on a le plus de recul et sur la sécurité et l'efficacité.
Existe-t-il un consensus scientifique entre la maladie dont souffre Émilie et la présence de ces adjuvants à base d'aluminium ?
Non. Pour le moment, non.
Alain Fischer.
Oui, je pense que le témoignage de cette dame est évidemment tout à fait respectable et toute souffrance doit être prise en considération et tout doit être fait pour améliorer la situation. Mais c'est un exemple de ce qui a été décrit au préalable où un groupe de patients qui souffrent d'une maladie inconnue pensent avoir trouvé la cause à travers la vaccination. Et souvent à travers une confusion entre deux concepts qui sont radicalement différents, qui est un, le principe de concomitance, c'est-à-dire on est vacciné et une maladie se déclare dans les semaines, les mois qui suivent. Donc on pense qu'il y a un lien de cause à effet, mais ce n'est pas parce que deux événements se succèdent chronologiquement qu'il y a forcément une relation de cause à effet, et donc le vrai principe de causalité. Et l'immense majorité des scientifiques, à une exception près, n'a pas établi de relation de cause à effet entre les adjuvants aluminiques et ce syndrome de fatigue chronique ou de myofasciite à macrophage, maladie par ailleurs qui de façon curieuse est décrite essentiellement en France. Et parce qu'un scientifique pense que cette maladie existe et pas dans d'autres pays, alors que bien évidemment les vaccins qui utilisent les sels d'aluminium comme adjuvant sont pratiqués dans le monde entier depuis bientôt 100 ans. Donc les données à la fois épidémiologiques et expérimentales ne permettent pas de conclure, et c'est ce qui a été l'observation faite par l'OMS et les différentes académies scientifiques, un lien de cause à effet entre adjuvant aluminique et maladie.
Alors vous citiez l'exception scientifique, il s'agit de Romain Guérardi, chercheur à l'INSERM, qui essaye de trouver des liens entre ces adjuvants à base d'aluminium et la maladie dont souffre Émilie, la myofasciite à macrophage.
Oui, mais il est le seul au monde, pratiquement, enfin, deux ou trois chimistes en Écosse, etc. Et il a 99,99% de la communauté scientifique, certes moins présente que lui dans les médias, n'arrive pas à la même conclusion. Et l'analyse approfondie qui a pu être faite des travaux de Romain Guérardi ne permettent pas de considérer qu'ils apportent cette explication. Et donc, ça ne veut pas dire que madame et les autres patients qui souffrent de myofasciite n'ont pas une maladie. Ils ont une maladie, des efforts de recherche doivent être faits pour comprendre et traiter leur maladie, mais la piste des adjuvants aluminiques est une fausse piste.
Daniel Lévy-Brulle.
Oui, juste pour un petit ajout, les cas qui sont identifiés et classés comme myofasciite à macrophage, en particulier par cette équipe, sont essentiellement pratiquement toujours des adultes. Et donc je tiens à rassurer en tout cas les parents de nourrissons pour dire que si cette problématique existait, en tout état de cause, elle ne concernerait essentiellement que les adultes. La moyenne d'âge des cas qui ont été classés comme myofasciite, c'est environ 45 ans.
Émilie, êtes-vous sensible au fait qu'il n'existe pas de consensus scientifique sur les liens entre votre maladie et la vaccination, et en particulier le fait que vous reprochiez à ces adjuvants à base d'aluminium de vous avoir rendu malade ?
Alors, moi, personnellement, en tant que malade, j'écoute un petit peu tout ce qui s'est dit. Je suis forcément un petit peu scandalisée parce que c'est absolument faux de dire qu'il n'y a pas de consensus scientifique, de dire que c'est un problème franco-français, c'est faux aussi, puisqu'il y a des chercheurs internationaux qui se penchent sur la question, que ce soit le professeur Schoenfeld, que ce soit le professeur Exley, et en France, le professeur Guérardi et Autier. Donc, c'est vrai que là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui se dit. Il y a des publications très sérieuses qui ont été établies, donc chacun pourrait s'y référer. Aussi. Moi maintenant je suis pour le financement de la recherche. On nous dit non, on voudrait nous faire penser que ça n'existe pas, que ce n'est pas lié, mais dans ce cas, finançons la recherche et vous verrez que les preuves seront là aussi. Donc je pense aussi que le fait qu'elle ne soit pas financée, ça arrange aussi ceux qui sont pro-vaccination et en tout cas ceux qui sont pour le maintien de l'hydroxyde d'aluminium dans la vaccination actuelle.
François Savadori, pose-vous. Alain Fischer, allez-y.
il y a effectivement 4 personnes de par le monde, dont un immunologiste complètement marginal, M. Schoenfeld, qui défendent cette thèse. Et en face, évidemment, il n'est pas possible d'évoquer les noms. Ce sont des dizaines de milliers de scientifiques et médecins de par le monde qui ne sont pas sur cette ligne. Et en ce qui concerne le financement de la recherche, en l'occurrence, les choses sont paradoxalement inexactes. La seule unique équipe de recherche qui ait jamais reçu un financement de l'Agence nationale de la sécurité des médicaments sur la vaccination, c'est celle de Romain Guérardi sur ce sujet. Aucune autre équipe française n'a reçu de tels financements. Donc c'est juste inexact de dire que ce type de recherche n'a pas été financé alors que d'autres le seraient.
François Salvadori, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est le consensus scientifique ? Puisque Émilie nous dit qu'il n'y a pas de consensus scientifique.
Le consensus scientifique montre que l'hydroxyde d'aluminium est l'adjuvant le meilleur à utiliser. Actuellement, il y en a certains, sans doute d'autres, qu'on appelle dans les pipelines, mais il faudra des années pour qu'on en fait qu'on ait la sécurité, qu'on ait la certitude qu'ils sont aussi sûrs que l'aluminium.
Merci beaucoup, Émilie, d'avoir témoigné ce matin. Allez, il est temps de...
Merci à vous. Je voudrais juste rajouter une chose.
Oui, allez-y.
Le phosphate de calcium pourrait tout à fait alternatif, puisqu'il était utilisé avant l'hydroxyde d'aluminium et qu'il n'y avait pas de problématique sur la vaccination. Voilà, je vous remercie pour votre écoute.
Merci beaucoup, Émilie. Alain Fischer, une petite réponse peut-être ?
Oui, c'est le phosphate de calcium est un adjuvant qui a été un peu utilisé, mais il est moins efficace. Et donc, comme cela a été rappelé à l'instant, dans l'état actuel des connaissances, et bien sûr, il y a beaucoup de recherches pour faire toujours mieux, l'adjuvant à base de sel d'aluminium est le meilleur dont nous disposons, et surtout avec une expérience passée considérable qui lui confère une grande sécurité.
Allez, il est temps de retrouver la chronique, alors voilà, de notre médecin écrivain Baptiste Beaulieu.
France Inter, grand bien vous fasse.
Non, apparemment, je suis venu un peu tôt, quoi. Je venais une heure plus tard, j'étais peut-être en pleine santé, si ça se trouve.
Et voilà, exactement.
Alors voilà.
Baptiste Beaulieu, tous les lundis, vous nous racontez une médecine à visage humain.
Oui, Ali, on en parle peu, mais les services des urgences de plusieurs hôpitaux entrent en grève. En plus de Nantes, qui rejoint les 17 services d'urgence parisiens de la PHP, Mantes-la-Jolie, Valence, Croix-Rousse rejoignent le mouvement, et ça me touche en tant que docteur, mais aussi en tant que romancier, puisque c'est dans un service d'urgence que se déroulait l'intrigue de mon premier roman. Interne, j'ai beaucoup travaillé aux urgences et j'adorais ça. Parce que les services d'urgence, Ali, c'est de l'humanité en boîte. Du beau, du bon, du sale, du violent, du triste, du joyeux, serré comme des sardines, du jus de conditions humaines concentrées.
Alors pourquoi ne pas avoir voulu y travailler alors ?
Tout simplement, un jour, je suis tout jeune soignant, plein d'illusions. Alors que je suis de garde, je m'occupe d'une ravissante patiente de 86 ans qui doit être hospitalisée. Élise, elle s'appelle. Et vous savez, Ali, aux urgences, on passe presque autant de temps à examiner des malades qu'à se débrouiller pour leur trouver une chambre dans les services surchargés. Élise, 86 ans, attend sur un brancard que je lui trouve un vrai lit. Elle a attendu 6 heures.
6 heures.
Oui. Moi, je me bataille comme jamais au téléphone pour elle et je la regarde, Élise, seule, angoissée, incapable de trouver une position confortable. Et je me dis, avec son dos, un brancard quand même. Finalement, on m'appelle. Baptiste, c'est bon, il y a eu un décès dans le service et du coup, une place est libérée. Et là, Ali, je me souviens parfaitement m'être exclamé « Super !» et m'être sincèrement réjoui. Et quoi, je viens enfin de lui trouver un lit à Élise, une vraie chambre, pas un couloir où circule tellement de monde qu'elle est incapable de dormir. Et puis je me rends compte que derrière mon super si enthousiaste, il y a un être humain qui est mort et qui a libéré la place. Et je quitte l'hôpital ce jour-là en me disant que je veux soigner, moi. Pas jouer aux chaises musicales avec les vivants et les morts. Et que plus jamais je ne veux me réjouir de la mort de quelqu'un, car ce n'est pas pour cela qu'on devient soignant. Non, ce n'est pas pour cela. Alors, je ne suis pas politicien, je n'ai aucune idée de comment améliorer les choses. Mon travail, c'est essayer de soigner. Et quand on le fait mal ou sous pression, ça amène à des erreurs ou des absurdités, comme un jeune médecin qui aurait rêvé d'être gentiliste, mais qui a dû sacrifier cette vocation-là à cause de cette poudrière hospitalière où nous sommes censés incarner. Pourtant, un idéal de vocation, d'humanité et de civilisation.
La chronique, alors voilà, de Baptiste Beaulieu, à voir ou revoir en vidéo sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse et également sur votre blog. Alors voilà, merci Baptiste Beaulieu. Allez, n'hésitez pas à nous contacter au 01 45 24 7000. Racontez-nous votre méfiance à l'encontre des vaccins. Dites-nous également si vous ne comprenez pas cette défiance. 01 45 24 7000.
D'une rivière ou d'autres amours, ne plus tenir ce que t'as laissé passer, redevenir comme comme autrefois plus léger. Elle ne te quitte pas. Sous chaque pluie que tu traverses, sous chaque ciel à la renverse, dans chacun de tes gestes, elle ne te quitte pas. Toi tu voudrais tailler la plaine en apache, te libérer d'un cri de toutes tes attaches, pour aller où, aller où, aller où, visage pâle, dans une tour d'ivoire en rase campagne. Mais elle ne te quitte pas. Sous chaque pluie que tu traverses, sous chaque ciel elle te renverse, dans chacun de tes gestes elle te prend le vitesse.
Innocent, interprété Apache.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
10h47, comment devient-on anti-vaccin? C'est notre question ce matin. Vous pouvez nous appeler au 01 45 24 7000. Aline Perraudin de Santé Magazine. J'aimerais que vous fassiez un focus sur l'Eurobaromètre. Une enquête vient d'être publiée sur les attitudes des Européens sur la vaccination.
Oui, il a été réalisé dans la dernière quinzaine de mars dans les 28 pays de l'Union européenne auprès de 27 500 personnes de plus de 15 ans. Alors, il y a de bonnes nouvelles. Une très grande majorité des citoyens de l'Union européenne, 85%, estiment que la vaccination est un moyen efficace pour prévenir des maladies infectieuses, pour s'en protéger soi-même et autrui. L'enquête montre aussi que près de la moitié des Européens ont été vaccinés au cours des 5 dernières années. 79% d'entre eux consultent des professionnels de santé. Ils leur font confiance quand il s'agit d'obtenir des informations sur les vaccins. Mais il y a encore des constats inquiétants. Les idées fausses sur les vaccins sont encore largement répandues en Europe. 31% des Européens, 34% des Français pensent que les vaccins fragilisent le système immunitaire. 48% des Européens, 60% des Français pensent encore à tort que les vaccins peuvent souvent produire des effets indésirables graves. 38% des Européens, 45% des Français croient que les vaccins peuvent être à l'origine des maladies dont ils sont censés nous protéger. Comme quoi, il y a encore des efforts à faire en matière de désinformation.
Commentaire autour de la table, François Salvadori, Laurent Rivignaud, je rappelle que vous avez publié Antivax.
Oui, ben, en fait, une des questions qui se pose, c'est pourquoi est-ce que les Français sont toujours au-dessus de la moyenne?
Pas pour tout, hein, pour la couverture ou la confiance envers les médecins généralistes.
Oui, ben, justement, c'est ce que je m'apprêtais à dire, c'est qu'en réalité, la crise de confiance, elle est spécifique, je peux dire si au public français, c'est une crise de confiance envers l'État. C'est-à-dire, en fait, c'est un tropisme un peu français qui est d'espoir en l'État, de très grande confiance en l'État et de méfiance en l'État. Vous voyez, c'est un rapport conflictuel, en fait, à l'autorité. C'est pour ça que la question de l'obligation est particulièrement sensible. On a été un des pays, d'ailleurs, à adopter des obligations très tard, hein, par rapport, les pays les premiers qui ont adopté l'obligation, c'est l'Allemagne. C'est l'Angleterre, et finalement en France, ça vient seulement après la Seconde Guerre mondiale, déjà un peu dans l'entre-deux-guerres. Mais donc là, et en fait, il y a une question. En France, on dit tout est politique. Et bien, en fait, aussi, l'antivaccinisme, c'est une forme d'opposition politique, si on peut dire.
Il y a une corrélation, ça c'est un rapport de 2018 européen qui montre une corrélation entre la confiance que les médecins ont envers les vaccins et celle du grand public. Donc, et d'ailleurs, on voit qu'il y a des différences de couverture vaccinale entre le Nord et le Sud. Absolument. Et c'est intéressant, peut-être il y a vraiment le rôle que peut jouer le médecin généraliste.
Daniel Lévy-Brulle, de Santé publique France.
Une petite remarque à ce sujet. On parle beaucoup depuis le début de l'hésitation vaccinale de la population. Mais je crois qu'il est important de garder à l'esprit que l'hésitation vaccinale, elle était présente, et j'emploie à dessein un temps du passé, à tous les niveaux. La population, je parle de la France, hein, les professionnels de santé, mais aussi les institutions et l'État. Et je pense que la grande vertu de l'obligation vaccinale, alors bien entendu, sa vertu coercitive va faire, et on a déjà les premiers chiffres qui montrent que ça fonctionne, va faire que la couverture vaccinale mécaniquement va s'augmenter. Mais au-delà de cela, il y a dans l'obligation vaccinale une partie de symbole d'engagement de l'État qui manquait. On peut dire que l'État était hésitant sur la vaccination jusqu'à récemment et qu'on voit depuis quelques années un engagement fort. Et je pense que cet engagement fort de l'État a rassuré la population, a rassuré les professionnels de santé qui se sentent soutenus dans leur effort difficile de répondre à toutes les interrogations de leurs patients. Et donc, au-delà de cet effet d'obligation qui peut être un petit peu désagréable, il y a un effet vertueux d'une obligation qui montre que l'État s'engage et l'État se porte garant de la vaccination.
J'entends tout de même des anti-vax qui me soufflent à l'oreille que l'État est vendu à l'industrie pharmaceutique, au laboratoire.
Alors non, moi qui suis la politique vaccinale depuis un grand nombre d'années, qui suis donc membre des instances qui font la politique vaccinale, je peux vous dire que nous n'avons strictement aucun rapport avec l'industrie pharmaceutique, si ce n'est le minimum qui est nécessaire pour être au courant des produits.
Alain Fischer.
Oui, c'est typiquement une parmi d'autres fausses nouvelles qui est largement diffusée avec la volonté de décrédibiliser à la fois les autorités de santé, les experts dans le domaine, de vouloir à tout prix qu'il y ait conflit d'intérêts. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas de temps en temps. Il faut être évidemment toujours très vigilant sur cette question, mais l'utilisation systématique de cet argument relève strictement du domaine de la fausse nouvelle. Et je rappelle ce qui a été dit très bien plus tôt dans l'émission, c'est le fait que beaucoup de ces fameux anti-vaccins qui adorent diffuser par tous les moyens et souvent malheureusement avec des bons moyens de communication de fausses nouvelles, ont des liens, pour ne pas dire des conflits d'intérêts, bref, des intérêts financiers directs à combattre la vaccination pour promouvoir des produits entre guillemets, très larges guillemets, de santé naturelle ou promouvoir des actions de défense, des livres, etc. etc. Donc il faut juste renverser l'argument en fait.
Oui, je pourrais ajouter qu'en tant qu'historien, on a observé dans le livre que peut-être contre toute attente, hein, les plus grands militants contre les vaccins sont au départ des médecins. Mais ce sont pas n'importe quels médecins. Ce sont des médecins qui, justement, souvent appartiennent à des branches de la médecine dite parallèle ou naturelle. Et vous pourrez retrouver ces informations dans le livre. Hein. Il y a plusieurs ténors de l'antivaccinisme au 19e et au 20e siècle qui ont par ailleurs une entreprise de fabrication de petites pilules miraculeuses. Et c'est systématique. Au moment de la loi Liouville en France, qui est le premier projet d'obligation vaccinale, l'un des adversaires envoie un texte à l'Académie en disant je finis mon texte anti-loi Liouville en vous disant quels sont mes spécifiques, quels sont mes médicaments qui, à coup sûr, vont protéger contre la variole.
Quelle était cette loi ?
La loi Liouville, c'est le premier projet en 1881 d'obligation vaccinale qui a échoué. C'est-à-dire, en deuxième lecture, le Sénat l'a rejeté. Hein, et ensuite, donc, l'obligation est entrée en vigueur au début du XXe siècle.
Baptiste Beaulieu.
Oui, c'est vrai qu'il faut toujours se pencher parce que les anti-vaccins pensent qu'il y a des intérêts financiers. Mais ils ne se demandent jamais si les intérêts financiers ne sont pas dans leur propre camp. Et je pense notamment à un médecin, je ne veux pas dire son nom, un médecin suisse qui est très connu, qui diffuse beaucoup de vidéos sur les réseaux et qui est... Par ailleurs, mais ça, il se garde bien de le dire, directeur de collection d'une maison d'édition qui publie des livres de santé, là aussi des guillemets, naturels et anti-vaccins, quoi.
Alors, nous recevons beaucoup de messages très contrastés. Élise qui nous dit sur notre page Facebook, je ne suis pas pro ni anti-vaccin. Ce qui me pose question, c'est la qualité de ceux qui font les lois et leur intérêt là-dedans. Comment laisser les lobbies à la porte des cabinets médicaux? Dominique nous dit, en 2011, j'ai fêté mon 60e anniversaire à l'hôpital avec une pneumopathie sévère due à la rougeole. Je n'avais pas eu cette maladie étant enfant et on ne vaccinait pas systématiquement les nourrissons contre ce virus dans les années 50. J'ai mis 4 mois à m'en remettre. Et j'ai probablement contaminé diverses personnes lorsque je toussais dans les lieux publics avant qu'on ne pose le diagnostic. Donc, je ne remercie pas les anti-vaccins. Daniel Lévy-Brulle.
Oui, ça illustre tout à fait ce qu'on a dit. Il y a sur la rougeole beaucoup de gens qui pensent que la rougeole est une maladie bénigne et qu'il n'y a pas de problème à l'attraper, que ça va même fortifier son système immunitaire. Comme je le dis, pardon, c'est un petit peu cynique, il n'y a que les survivants à la rougeole qui peuvent dire que la rougeole est une maladie bénigne. En fait, c'est une maladie qui souvent se complique avec, aujourd'hui, nous avons identifié une quarantaine de personnes qui ont fait la rougeole dans les dernières années et qui ont souffert d'encéphalite avec des séquelles.
Hélène nous dit, enfant, je suis allée dans un village d'Algérie très reculé, en vacances. Je me souviens de ces femmes en blanc portant leur enfant décédé de la rougeole après une épidémie dans le village. Nous étions mes frères et moi vaccinés parce que vivant en France, ça m'a tellement choqué que le pédiatre de mon fils n'a pas eu à argumenter pour vacciner mon enfant. Alors justement, quel bilan tirez-vous de l'obligation vaccinale initiée par le ministère de la Santé en 2018, Daniel Lévy-Brulle? Près de 99% des nourrissons ont reçu un vaccin hexavalent contre le tétanos, la diphtérie, la poliomyélite, la coqueluche, la rougeole, les oreillons, encore la rubéole.
Oui,
vous êtes satisfait? C'est encourageant?
C'est tout à fait le mot qui convient, c'est très encourageant. Il est encore un peu tôt pour faire un bilan définitif, puisque les enfants qui sont concernés sont les enfants nés à partir du 1er janvier 2018, et ils ne sont pas encore tous à l'âge de recevoir l'ensemble des vaccins obligatoires. Mais pour les vaccins de la première année de vie, on voit déjà des effets en termes de couverture vaccinale, puisque comme vous l'avez rappelé, on a 98-99% d'enfants qui sont maintenant protégés contre l'hépatite B, protégés contre le pneumocoque. On voit également une augmentation extrêmement significative de la vaccination contre le méningocoque C. On est passé en un an seulement, de 39% d'enfants vaccinés à 75% d'enfants vaccinés. Et ça, c'est la couverture à 7 mois, bien entendu. Tous les enfants ne sont pas mis en collectivité à 7 mois et donc on est certain que cette couverture va s'améliorer au fur et à mesure que les parents vont se rapprocher de l'entrée en collectivité.
Professeur Alain Fischer, que dire à ceux qui hésitent à faire vacciner leurs enfants sans être paternaliste ni donneur de leçons?
Avant ça, si je peux me permettre d'ajouter un mot à la...
Bien sûr.
Évidemment, ces résultats sont très satisfaisants, en même temps fragiles, l'effort devra être maintenu. Et puis je voudrais surtout rappeler que la vaccination, ce n'est pas que la vaccination obligatoire des nourrissons, c'est la vaccination tout au long de la vie. Les rappels chez les enfants, les rappels chez les adultes qui sont malheureusement faits de façon insuffisante. C'est la vaccination, par exemple, contre le virus du papillomavirus qui est responsable du cancer du col de l'utérus. 3000 cas en France, 1000 morts. Or, en France, malheureusement, cette vaccination qui est pour l'instant recommandée aux jeunes filles n'est effectuée qu'à peu près chez 1 sur 5. Donc c'est un grand échec de la vaccination à ce jour. Donc il y a beaucoup d'efforts à faire encore. Convaincre les hésitants, je reviens à votre question. informer, comme vous le faites aujourd'hui et comme il faut le faire à tous les niveaux de notre société, pour que la vaccination apporte pleinement ses protections là où elle peut le faire grâce au progrès de la recherche médicale.
François Salvadori, Laurent Rivigno, en deux mots, quels sont tout de même les bienfaits à mettre au crédit des anti-vaccins? Laurent Rivigno.
Ah, en deux mots, c'est compliqué.
Oui, je sais que c'est compliqué.
On l'a dit dans le livre, associer l'antivaccinisme à une certaine forme, les associer à l'image du lanceur d'alerte dans certaines situations. Il y a des situations historiques, connues dans lesquelles l'État a menti, a truqué les statistiques.
Vous le racontez très bien dans votre livre.
Et voilà. Donc, là, par exemple, au 19e siècle, sur le cas de la variole, ils ont pu alerter sur des véritables dangers qui étaient celui de contamination par les germes de la syphilis, etc. Voilà. Donc, mais le problème, c'est que le discours, quand il est radical, il brouille complètement ce qui pourrait être une vraie information. C'est-à-dire que même quand les anti-vaccins donnent de l'info, c'est tellement recouvert d'infox que ça brouille le message. C'est ça le problème.
Merci à tous. Je recommande de la saine lecture d'Antivax, la résistance aux vaccins du 18e siècle à nos jours, chez Vendémiaire. Merci François Salvadori et Laurent-Henri Vigneault. Merci Daniel Lévy-Brulle de Santé publique France et le professeur Alain Fischer. Demain, nous verrons comment les ruptures nous transforment. Nous recevrons la professeure de philosophie Claire Marin et la romancière Colomb Schneck. Et vous, de quelle façon une rupture vous a-t-elle transformé? 01 45 24 7000. À suivre Nagui et sa bande originale.